que je me suis obligée de prendre des lunettes pour lui. On voit très bien de loin, donc ça va faire un peu sévère, mais c'est pas grave. Ça fait un peu de lumière, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, donc, effectivement, j'étais chanteuse professionnelle, donc chanteuse professionnelle, j'étais danseuse professionnelle au premier temps. Chanteuse professionnelle, j'étais dans le monde de l'occultisme, hein, avant de connaître le Seigneur, j'avais un désir vraiment de puissance. J'ai eu une vie assez difficile, qui fait qu'effectivement, je me suis tournée vers ce monde de l'occultisme. J'ai été voyante, moi-même j'avais un cabinet de voyance, j'ai fait beaucoup de choses avec la sorcellerie notamment, magie blanche, magie noire. Voilà, même, je vais vous dire, on a même un jour, on est rentré dans mon cabinet en demandant de tuer son mari, donc c'est là que j'ai pris conscience, effectivement, qu'il y avait vraiment un problème. Mais loin était encore ma conversion. Ma conversion, je l'ai eue en 2002. Le 14 septembre 2002, jour de la Croix Glorieuse. Ce fut inattendu, bien sûr, et extrêmement puissant. En fait, le Seigneur m'a préparé pendant des années. Il m'a mis déjà, dans un premier temps, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, quand j'habitais La Rochelle, quelques 10 années auparavant. Je suis tombée comme ça sur une petite image qui était par terre, dans une église de La Rochelle, puisque j'avais un ami qui était diacre, qui habitait juste en face de chez moi. Et cette image ne m'a jamais quittée. Elle était toujours accrochée en face de mon lit. Je ne sais pas, je la trouvais très sympathique, je trouvais ça très joli, la femme avec les roses et tout ça, et avec la croix, parce que c'est Sainte Thérèse de la Croix. C'est bien. Mais moi, je ne savais pas que c'était Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je crois qu'elle était belle, quoi. C'était une belle, belle image. Voilà. Je trouvais ça effectivement beau. Bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, début année 2002, je suis tombée gravement malade de mes cordes vocales, parce que je tournais beaucoup en France. Et j'étais dans une compagnie de chant, voilà, la Mirmesson Compagnie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le triple nodule aux cordes vocales. Voilà, donc ce qui m'a fait un arrêt de 6 mois. J'ai été obligée de faire la rééducation. Ça a été terrible sur le plan intérieur. Mais curieusement, ça s'est vite dissipé. Parce que déjà, ce qui se passait quand j'étais déjà professionnelle, je sentais ce côté superficiel. Et j'avais des souffrances quand je revenais de la scène. J'avais déjà beaucoup de souffrances parce que je sentais que je vivais à travers les autres, à travers le regard des autres, à travers le regard du public. Et c'était très très difficile pour moi. Parce qu'on se retrouve tout seul face à soi-même et on ne peut pas vivre sans les autres. Donc déjà, je me suis posé des questions et j'avais déjà un côté un peu plus profond que les autres, où les autres, bah, ils détaillaient leur voix, leur machin. Moi, j'étais déjà pas trop comme ça, car au niveau du caractère, j'étais pas comme ça. Et puis c'est vrai que, bon, c'est un milieu difficile. Moi, j'aime pas du tout écraser le voisin, donc déjà, bon, c'était pas trop mon truc. C'est vrai que ça a été assez compliqué. Et en fait, qu'a fait le Seigneur, il a permis ça, en fait. Mais moi, je le savais pas du tout à l'époque. Donc après cet arrêt de 6 mois, j'ai fait cette rééducation. Et ce qui est curieux, c'est qu'il a travaillé. La grâce de Dieu a vraiment travaillé, maintenant, je peux le dire après coup. Et je suis revenue à la Mirmesson Compagnie. Et quand je suis revenue à cette Mirmesson Compagnie, j'avais plus du tout envie de chanter dans ces conditions. Mais plus du tout. J'avais même pas envie de faire l'opéra, c'est simple. Je m'ennuyais, alors qu'avant j'étais passionnée et tout ça, je faisais des concours internationaux, tout ça, bon, j'étais super passionnée par mon métier, et là, même quand je chantais du Verdi, moi qui étais folle de chanter, voilà, bon, ça ne me faisait ni plus ni moins, ça ne me faisait rien. Je m'ennuyais pas simplement. Et entre-temps, pendant mon absence, il y a un homme qui est rentré dans la compagnie, qui s'appelait Christian d'ailleurs. Et qui travaillait à la BP, qui était directeur de la BP et tout ça, Bruno Dolland, etc., qui était un chanteur, lui, il faisait ça comme ça par les téléphones. Donc Martine avait besoin de lui pour faire un bariton et tout ça. Et donc, moi, j'étais pas bien. Et je sais pas pourquoi, je suis allée vers cet homme, et puis je lui ai parlé, etc. Je lui ai dit, bah, écoute, Christian, je comprends pas, voilà. J'ai plus de sens à ma vie, même le chant ça m'intéresse plus, enfin bon, je sais pas où est-ce que je me trouve là, vraiment je me sens pas bien dans ma peau, ça va pas. Et bien il me dit, eh bien écoute, il dit que toi tu sais, la seule solution pour toi c'est Dieu. J'ai dit Dieu, c'est quoi Dieu, mais moi Dieu, je dis comme ça, c'est n'importe quoi, c'est un prophète, tu sais, moi je suis athée, va me parler de Dieu. En plus j'ai vécu des trucs dans ma vie qui étaient très durs, mais va pas me parler de Dieu, c'est un prophète, c'est un truc dans ta tête, c'est bon quoi. Je lui dis, on n'est pas au Moyen-Âge, laisse-moi tranquille avec ça. En fait, j'ai envoyé sur les roses, j'ai envoyé balader. Et puis voilà. Et quand même, petit à petit, le Seigneur a creusé. Le Seigneur a creusé. Et un jour, je lui ai dit, mais Dieu, comment ça Dieu? Et il a commencé à m'expliquer, etc. Et il m'a dit à un moment donné, Dieu est amour, vraiment Dieu est amour, et il ne veut pas que tu superbe. Et là-dessus, j'ai accroché. Il me dit, bah, écoute-moi si tu veux, bah, je t'amène à un groupe de prière à Montsou-Maffliers. C'est charismatique. Je sais quoi ça et tout. Alors, c'est quoi charismatique? Ben, il me dit, voilà, c'est le Saint-Esprit. Il a commencé à m'expliquer, mais ben, le Saint-Esprit, moi, je ne savais pas ce que c'était, le Saint-Esprit. Hein, alors là, déjà, Dieu, je ne savais pas ce que c'était, mais le Saint-Esprit, il était tombé. Quoi. J'avais juste appris ce que c'était de Jésus, je savais qu'il était mort sur une croix, et basta. Voilà, quoi, c'est tout, mais bon, ni pourquoi, ni comment, ni quoi, ok. Et je vais à un groupe de prière, effectivement, qui était à côté de chez moi, un mercredi à 20h30. Je les vois tous, ils se mettent à pleurer, à hurler. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Ils sont malades là-dedans, quoi. Ils sont complètement cinglés. Ils étaient complètement comme des fous, quoi. Et puis, alors, il y en avait qui sautaient, qui dansaient, qui hurlaient. Oh, et puis, j'avais, il y avait une femme juste à côté de moi, qui, en fait, on est devenue amie, et en fait, c'est confirmé, parce qu'elle est devenue ma marraine de confirmation, et voilà. Et je lui ai un grand coup de coude, je lui ai dit, dites-moi, c'est quoi votre truc? Franchement, je l'ai comme vraiment, comme du poisson pourri, comme dirait ma mère des fêtes, je l'ai vraiment engueulé, quoi. Je lui ai dit, mais c'est n'importe quoi, le Seigneur, je pense pas qu'on doit prier le Seigneur, c'est pas, c'est, faut être très calme, hein, je dis, faut pas, ah, qu'est-ce que c'est que ça, et tout, quoi. Vraiment, c'était une horreur, pour moi, c'était une horreur, quoi. Je lui ai dit, vous êtes tous malades là-dedans. Et puis bon, elle m'a prise le lendemain, moi, elle m'a téléphoné, on a échangé nos numéros, on a vachement sympathisé, et tout, puis elle m'a téléphoné le lendemain, et puis on a commencé à déjeuner ensemble, puis je sais pas, c'est avec elle que ça commençait à s'accrocher, etc. Et puis un jour, peut-être un mois après, elle me dit, Lisa, elle me dit comme ça, ça te dirait d'aller à un groupe de prière à Boulogne-Billancourt, parce qu'en plus elle était catholique, mais elle était assez œcuménique, donc elle est chez les orthodoxes, chez tout le monde et tout ça, donc voilà, quoi, elle était très ouverte, quoi, et c'était génial. Moi, j'aimais bien, puis elle était cool. Elle ne présentait pas la foi comme quelque chose de prise de tête, elle y allait mais à petite dose, et en fait, le Seigneur s'est vraiment servi d'elle, parce que c'était comme des petites piqûres, c'était pas la grosse dose d'un coup. Ah ben, je lui dis, bah, ouais, si c'est comme il y a un mois, bonjour, quoi, moi, j'ai pas envie, et tout ça. Elle me dit, non, tu verras, c'est super, et tout, c'est des pentecôtistes. Ça, je me rappelle ça, c'est maintenant, ça me revient parce que j'étais plus très sûre. Bon. Alors on arrive là-bas, c'est la place très haute, je crois que ça s'appelle la place très haute. Place haute, voilà. Alors ça, c'est bon. Je n'ai pas fait attention, mais sur le moment, si vous voulez, après, c'est après que j'ai dit ça, la place haute, ça me rappelle la descente de la Pentecôte, quoi. J'ai trouvé ça fantastique, mais c'est après, quoi, je me suis rendu compte après. Et donc, je rentre là-dedans. Il y a un monde. Si je me souviens, non, elle est grande, la salle, non ? Assez grande et c'était plein à craquer, quoi. Mais moi, je me suis fichée au fond, dans un coin, près de la porte, et puis... parce que vraiment... vraiment, quoi. Alors, il y avait un pasteur, apparemment, qui était là avec sa guitare, et il était américain, donc je pense. Et puis, c'était une session d'un week-end, etc. Donc, moi, je suis arrivée le samedi. Et puis, bon, il chante, la louange, tout ça, etc. Puis, il commence son prêche. Bon. Rien. J'étais toujours là, de toute façon, il peut dire ce qu'il veut, hein, de toute façon, je m'en fous. Et d'un seul coup, je vous assure que c'est vrai, d'un seul coup, il descend son estrade. C'est incroyable, il descend son estrade, il fonce à travers la salle. Pourtant, j'étais dans un coin dans la pénombre. Hein. J'étais planqué, hein, bien comme il faut, quoi. J'étais en fond, il descend. Vous, qui me fait comme ça, il me prend, paf, il me met la main comme ça, par demander pardon, Seigneur, d'avoir fait de la voyance, etc. Pardon, Seigneur, et tout ça, on fait de la voyance, etc. Mais vraiment, repentis-toi dans le nom du Seigneur, au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je suis tombée à plat ventre. Je me suis mise à pleurer. J'ai senti mon cœur brûler de repentance. C'était terrible, parce que ça me traversait comme si j'étais coupée en deux. J'ai senti vraiment le Saint-Esprit, en fait c'est Saint-Esprit, hein, mais ça me brûlait, parce que comme si j'étais ouverte en deux. Je me suis retrouvée par terre à pleurer. Et j'ai dit, pardon Seigneur. Et puis bon, après j'ai eu une joie, une paix. Et puis j'ai commencé à éclater de rire. Alors après, je me suis roulée par terre de rire. Ça a duré 10 minutes. Je ne sais pas combien de temps, mais enfin, ça a duré à peu près 10 minutes. Mais j'étais pliée en deux, quoi. Vraiment pliée en deux. Et à un moment donné, le Seigneur me montre, c'est là que j'ai commencé à avoir des visions, le Seigneur me montre deux portes, et je vous assure, hein, moi j'en ai des frissons même encore maintenant quand j'en parle, et c'est un petit peu aussi qui me permet de rester dans la vigilance, dans la prière, parce que je peux vous garantir qu'on peut vite être perdu. C'est une question de vie ou mort, la vie chrétienne. Hein. Là, je m'en suis rendu compte tout de suite. Le Seigneur m'a mis tout de suite au parfum. J'avais les portes de l'enfer qui se sont fermées au ras des fesses, comme ça. Je vous le dis. C'est-à-dire que j'étais en permission totale. C'est-à-dire j'ai vu les portes se fermer, c'était des grosses portes noires qui sentaient très mauvais le soufre et tout ça, avec des gros trucs, c'était horrible. Et là, j'ai eu du feu, enfin bon, j'entendais des hurlements, et ça s'est fermé au ras de mes fesses. Et puis d'un seul coup, je ne sais pas, ça s'est avancé comme si j'étais sur un tapis roulant, et j'ai levé mes yeux, et j'ai vu une croix hyper lumineuse, hyper grande, qui prenait toute la place, avec deux têtes. Et puis après, j'ai vu les corps qui commençaient à se former. Alors j'ai vu une dame voilée, je ne sais pas qui c'était, et une autre voilée. Encore moins, je ne savais pas du tout qui c'était. Hein. Fallait pas me dire et tout. Et puis bon, alors, j'étais dans une super paix, dans une super joie, etc. Et j'ai dit, oh, je suis comme ça, qu'est-ce que j'aime Dieu, oh Seigneur, je t'aime, oh Seigneur, je t'aime. J'étais là, Abba, papa. Puis je dis à Brigitte, maintenant, on y retourne demain, hein, on y retourne, hein, et tout ça, et on y retournait. Mais moi, si vous voulez, cette croix, je ne savais pas que c'était le jour de la croix glorieuse. Aujourd'hui, je vous le dis, mais moi, je ne le savais pas. J'ai vu cette croix lumineuse, mais je ne savais pas du tout ce que c'était. Du tout. Et bon, donc j'ai eu un tel amour pour Dieu, j'ai commencé. Le Notre Père, Saint-Esprit, je vous salue Marie, les prières d'église, je vous assure, ça m'a été appris par cœur. C'est fou, une fois j'ai rêvé du comment ça s'appelle, là, le Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je l'ai rêvé, je dormais, je l'ai rêvé. Et le lendemain, je savais par cœur au réveil, quoi. Le credo, voilà, c'est ça, le credo, quoi. C'est incroyable. Mais c'est incroyable, moi, mais des trucs pas possibles, et puis même j'étais guidée pour plein de choses, quoi. J'étais guidée pour plein de choses. Mais vraiment, le Seigneur a transformé ma vie. Alors évidemment, au début, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je suis allée à l'église catholique de mon coin. Donc, à l'époque, j'habitais Daumont. J'ai vu le curé qui m'a dit, moi, j'ai pas le temps. J'ai écouté mon père, moi, je... Excusez-moi, moi, je dis ce que j'ai vécu, hein, voilà, quoi. Le curé, il a dit qu'il n'avait pas le temps. Donc, j'ai dit, bon, écoute, Seigneur, que je commençais... Alors, déjà, je lui parlais au Seigneur comme ça, quoi. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite. Je lui dis, écoute, Seigneur, moi, j'aimerais bien quand même communier. Alors, si ça doit attendre 2 ans, ça va être un peu long, hein. Et puis, elle me dit, Brigitte, elle me dit comme ça, quelques jours après, elle me dit, on va aller au frère d'Ourscamp. Je lui dis, ah bon, et tout, c'est où, ça? Elle me dit, c'est à Ourscamp, et elle me explique un petit peu les frères de Jésus et tout. Donc on y va, et puis je faisais de l'adoration, et il y a un frère de sang, j'écoutais, je voudrais me confesser s'il vous plaît, etc. Donc je me suis confessée, et c'est là qu'il m'a donné la communion, devant l'adoration. Donc j'ai fait ma première communion comme ça, et puis comme je ne me sentais pas, le curé n'avait pas le temps de s'occuper de moi, donc je suis allée à Saint-Gervais, et c'est Saint-Gervais qui a continué à parfaire ma formation chrétienne, voilà, pendant un an, j'ai préparé la confirmation, donc j'ai été confirmée en mai 2004. Voilà. Et à peu près à la même... c'est le 23 mai 2004 que j'ai été confirmée. Et quand j'ai été baptisée le 23 mai 71. C'est rigolo, c'est les mêmes dates. Enfin, voilà. Donc le Seigneur a continué à me parfaire. Puis après, j'ai senti l'appel à la vie monastique, etc. Hein, parce que c'est vrai, quand on est dans le Seigneur, on est tout fou. Hein. On a envie de servir le Seigneur et tout. Donc j'ai tout plaqué. J'ai tout laissé. Le chant, tout. Toute ma vie, et puis je suis rentrée au monastère, voilà, donc j'ai vécu 7 ans, et là, je suis sortie depuis 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, et voilà, et je continue mon chemin avec le Seigneur, mais je peux vous dire qu'il a vraiment transformé ma vie par la croix glorieuse, voilà, qui n'est pas une croix de souffrance, mais qui est une croix de guérison et de puissance, et il faut prendre puissance dans la croix, car tout a été accompli sur la croix, une bonne fois pour toutes. Voilà, donc j'ai cette lumière qui ne me quitte plus. En fait, même si parfois, parce que c'est vrai que j'ai des espérances. Là, je vous avoue que j'ai perdu mon père au mois de... il y a 4-5 jours, hein, je l'ai enterré mercredi. Voilà, c'était mon dernier lien avec la famille. J'ai plus de famille, mais j'ai une famille en Christ. Voilà. Donc, voilà. Voilà pour mon témoignage. Et depuis, le Seigneur me travaille beaucoup de l'intérieur. Le Seigneur m'a fait traverser... des abîmes. Le Seigneur m'a fait traverser la lumière. Ce que je peux vous dire, c'est que la vie spirituelle, c'est pas une montée mais une descente. C'est comme dans le Magnificat de Marie. Hein, il élève les humbles et il abaisse les orgueilleux. Et Je me suis vraiment rendu compte que la parole, j'ai une grande passion pour la parole, je me suis vraiment rendu compte que la parole de Dieu était concrète. La vie spirituelle, c'est dans le concret. Voilà. Donc tout ce qui est dit dans la parole, c'est vraiment concret. C'est pas forcément des paroles qui sont, on va dire, des paroles symboliques. C'est vraiment du concret, je peux vous dire. J'ai même vécu ça dans la vie monastique. Et la descente, effectivement, eh bien, c'est par la croix, avec la puissance de la croix, accepter ses faiblesses et ne pas avoir peur de descendre dans ce qui est le plus obscur en nous. Que le Seigneur lui est descendu avant nous dans les enfers, donc faut pas avoir peur d'y aller. Mais des fois, c'est pas toujours facile. Donc voilà. Donc je continue à suivre ce chemin d'une descente, on va dire, de plus en plus profond. Mais à chaque fois, il y a une renaissance, il y a une résurrection, il y a une libération qui se fait. Et des fois, c'est dur, des fois, ça passe par des grosses souffrances, par des sécheresses, mais je sais que le Seigneur est présent. Enfin voilà, je vous ai témoigné mon parcours, grosso modo.
Super, j'ai t'aidé la semaine dernière, donc j'étais à son obsèque et c'était très très touchant. C'était vraiment une journée bénie. En fait, c'était très bien, comme elle a dit, très bien avec sa famille maintenant et les sœurs. Elle est accueillie par nous, donc elle est, c'est nous, votre famille maintenant. Maintenant, le partage des paroles. Ah oui, avant, on va peut-être, s'il y a des gens qui veulent poser la question. Oui.
J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'entrepreneurship par rapport à ce à ta vie de religieuse, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu en retiens en fait, et pourquoi tu l'as quitté aussi.
Alors, pas du tout, il n'y a rien du tout d'administratif, bien au contraire. Je n'étais pas appelée à la vie monastique déjà, c'est pour cette raison que j'ai quitté. Le Seigneur avait besoin de moi dans le monde. En revanche, je suis attachée à cette communauté comme oblate, donc je continue à vivre la vie bénédictine dans le renouveau, toujours. Je vis aussi de la règle de Saint-Benoît, mais je peux me marier, je suis laïque. Voilà, je suis laïque. En revanche, dans ma vie monastique, ce qui m'a donné beaucoup de force d'avoir le Seigneur m'a beaucoup travaillé au niveau de mon être intérieur, parce que c'est vrai que déjà dans la communauté où j'étais, une fois par mois, il y a des sessions de guérison, etc., intérieure, des sessions de libération, etc., parce que c'est... Nous sommes une communauté où il y a des, on va dire, des ministères de délivrance, de guérison, etc., où il y a eu vraiment beaucoup de choses, le Seigneur a accompli des merveilles. J'ai vu trois personnes se lever du fauteuil roulant, donc voilà. Et c'est vrai que, c'est, si vous voulez, c'est très déstabilisant parce qu'on arrive la tête remplie du monde, des pensées du monde. Et même si moi j'étais baptisée à 5 ans, assez tardivement, c'est vrai que le baptême, je m'en étais pas, on va dire, beaucoup occupée. Donc il était un peu mis de côté, très poussiéreux, et le Saint-Esprit s'est vite fait de me le dépoussiérer. Je me rappelle que la vie monastique est une vie... la vie monastique, c'est retrouver pleinement sa vie baptismale, en fait, par l'unité, l'unification de l'être intérieur. Parce que moine, monos en grec, ça veut dire moine, ça veut dire unifié seul. Voilà. Donc c'est quand même une vie de désert que j'ai vécue pendant 7 ans, où j'étais confrontée face à moi-même, face aux frères aussi, que je n'avais pas forcément choisi. Donc c'est des remises en question profondes, c'est des souffrances, bien sûr. C'est le Seigneur, il rentre dans votre vie, excusez-moi, mais il met vraiment tout en dessous. Donc au début, c'est vrai que ça a été difficile, parce que j'avais plus les points de repère habituels. Et puis de toute façon, après, j'étais obligée d'apprendre que les points de repère humains, il faut les laisser complètement tomber, et que c'est le Saint-Esprit qui guide, quoi. Donc, et on apprend dans la vie monastique justement à se laisser guider, on va dire, se laisser aller dans l'abandon à la grâce de Dieu, de Saint-Esprit, quoi. C'est la foi, c'est la grâce dans la foi, quoi. C'est « Seule ma grâce te suffit ». J'avais toujours toujours cette parole « Seule ma grâce te suffit ». Voilà. Et c'est vrai que même je suis tombée malade en communauté, très gravement malade, j'ai failli laisser ma peau. Mais en fait, c'était le Seigneur qui purifiait, parce que le Seigneur, il purifie, hein. Il ressort tout ce qui est, voilà, tout ce qui est pas bon. Mais pour moi, que j'en tire à la fois, c'était dur, mais en même temps, je rends grâce à Dieu parce que j'ai eu un super supérieur, déjà, il était magnifique au niveau spirituel. c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et en plus, j'ai fait des années de théologie, anthropologie, christologie, donc ça a beaucoup contribué aussi, ça m'a beaucoup permis d'approfondir aussi la parole. J'ai fait beaucoup d'études bibliques, donc je suis une fan de la parole de Dieu, je prie beaucoup avec la parole de Dieu, bien sûr, il n'y a que ça qui pour moi, voilà. Et donc, c'est cette parole en fait qui m'a transformée, qui m'a complètement transformée de l'intérieur en fait. On devient cette parole en fait, au bout d'un moment, on devient cette parole. Voilà. Et c'est toujours, alors ce qui est très étrange, c'est qu'on avance, mais en même temps, on a l'impression qu'on avance, mais en fait, on n'atteint pas le but, quoi. C'est ça, je vois que ça se recule, quoi. Ça va toujours plus loin, le Seigneur nous amène à nous dépasser nous-mêmes, et à lâcher surtout nos pensées toutes faites. Nos pensées toutes faites qui nous bousillent la vie, je vous assure. C'est les pensées toutes faites, la volonté propre, on a plein de trucs comme ça. Enfin, moi, personnellement, on était bourré, orgueil. Enfin, l'orgueil, je crois que c'est jusqu'à la fin de nos jours, donc on va faire avec, hein, mais voilà. Et puis la vaine gloire aussi, ça, on voit ça beaucoup. Alors la vaine gloire, c'est, qu'est-ce que la vaine gloire? C'est se glorifier à travers le regard des autres et chercher, l'appréciation du monde, quoi. Au lieu de regarder plutôt au visage de Dieu et d'être aimé de Dieu. C'est ça la vaine gloire. Donc Seigneur, il n'aime pas tout ça. Pas du tout même, donc murmure non plus d'ailleurs. Enfin, voilà, donc on apprend tout ça. En même temps, la vie monastique m'a appris aussi à être plus adulte, à gérer ma vie. On apprend par exemple, même au niveau corporel, ça va jusque là. Par exemple, vous savez, quand on n'est pas aligné avec soi-même par le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit n'a pas fait un travail, on est en route toute notre vie pour ça. On n'a jamais fini d'être unifié jusqu'à notre mort. Hein. Faut pas rêver. Quand il y a des gens qui me disent comme ça, moi ça y est, je suis super équilibré et tout, j'y crois pas. Hein, c'est un travail de tout le temps, de tout le temps jusqu'à la fin de notre vie. Hein, faut pas rêver, mais le Saint-Esprit l'aligne. Par la prière, l'adoration, la contemplation, la méditation, de la parole, on mâchait la parole. Tout le temps, mâchait la parole, on méditait. Et en fait, le Saint-Esprit fait ce travail par la parole, et c'est comme si vous voulez, il mettait l'être droit. Voilà. Et même au niveau des gestes, je me suis rendu compte, j'arrivais, par exemple, même pour passer l'aspirateur, j'ai trouvé ça complètement ridicule, mais je faisais des gestes inutiles autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, au lieu de prendre l'aspirateur net, clair, précis, ma manière de travailler, il n'y avait pas de suite méthodique, quoi. C'était dans tous les sens, j'avais des gestes dans tous les sens. Et à force de vivre dans ce silence, dans cette prière, etc., en présence de Dieu, et les frères aussi, vous remettent bien en question, croyez-moi, ben, le Seigneur, il arrive à diriger l'énergie dans le bon sens, et ça s'appelle en fait l'économie des gestes, même au niveau de la parole aussi. On parle moins pour ne rien dire, hein, parce que qu'est-ce qu'on parle pour ne rien dire? On parle moins pour ne rien dire et tout, et puis en fait, il n'y a pas tant de choses que ça, on n'a pas besoin de tant de choses que ça en fait déjà. On apprend à vivre plus dans l'être que dans le... Le Seigneur nous fait rentrer dans notre être. Et dans son être à lui, et par la même occasion, voilà, le nôtre, par l'unification du cœur esprit, on parle aussi la Bible, et notamment les Juifs, ils parlent beaucoup de ça, hein, le cœur esprit. Voilà, donc c'est tout un travail que fait le Saint-Esprit, et c'est rigolo, parce que les trois premières années de ma vie monastique, je voulais tout faire par moi-même, quoi, chercher la grâce de Dieu par moi-même, etc., et je me suis fatiguée pour rien. Au bout d'un moment, sur l'adoration, le Seigneur, il m'a dit, mais attends, tout vient de moi, sans moi tu ne peux rien faire, seule ma grâce te suffit. Et là, il m'a montré, j'ai fait une très très forte lumière, et ça a commencé à lâcher tout doucement, mais je vois bien, c'est pas moi qui fais le travail, quoi. Ça vient naturellement, quoi, au moment où il faut, quand il faut. Le Seigneur sait quand ça doit être le moment ou pas, quoi. Donc, enfin voilà. Si vous avez d'autres questions, ben, est-ce que ça...
Si, moi j'ai une autre question. Je parlais de guérison au sein de la communauté.
Oui.
Est-ce que c'est une guérison tous ensemble ou bien est-ce qu'il y a des personnes qui ont des dons en particulier pour guérir, qui viennent de Dieu,
bien sûr? Ah oui, c'est des dons qui viennent de Dieu.
Bah, mais est-ce que c'est l'ensemble des gens ensemble qui font que voilà, que la prière sans guérir les gens, ou bien il y a des personnes en particulier qui ont des dons?
Bah, il y en a qui en ont plus que d'autres. Je sais que j'ai exercé ce ministère très longtemps avec Ephraim, j'accompagnais très longtemps les personnes aussi spirituellement. Alors ce qui se passe, c'est que ça se déroule comme ça, ça se déroule ainsi, il y a la louange, après il y a un enseignement. Alors si par exemple c'est sur les liens transgénérationnels, je ne sais pas si vous connaissez. Mm-hmm. Voilà. Alors les liens transgénérationnels, vous savez que les ancêtres nous transmettent voilà, des bonnes choses, bien sûr, mais il y a aussi les mauvaises choses liées au péché, et ça passe par les pères. Voilà, ça passe par les pères, c'est d'ailleurs c'est souvent dit, et comme dit le Seigneur, vous serez maudits sur 3 ou 4 générations, même des fois ça peut remonter même plus loin. Donc en fait, on prie le Seigneur, etc. Les personnes, si vous voulez, vont dans le silence, donc y a, on prend par tranche d'âge, hein, bon, ça peut être de 0 à 6 ans, après de 6 à 20 ans, vous voyez, je dis grosso modo comme ça. Et donc les personnes après, elles vont un temps de solitude, et l'esprit les guide, leur montre c'est pas à détacher. Et donc à ce moment-là, elles viennent, donc dans la deuxième partie de la journée, elles viennent demander la prière et nous on prie, on intercède. Voilà, et c'est vrai qu'il y a des miracles, hein, ça c'est sûr, le Seigneur est puissant, hein, il y a vraiment des miracles. Alors bien sûr, il y a des personnes, je l'avoue, rien n'est acquis, hein, c'est pas parce qu'on vient et qu'on a des grâces. Très bien d'avoir des grâces, c'est ce que je dis aux personnes, encore faut-il après les mettre à contribution dans la vie tous les jours. Parce que si vous venez, on avait des fois des personnes comme ça, elles n'étaient pas contentes, mais pourtant je ne voulais pas être méchante avec elles. Je leur disais, mais elle me dit, ça fait 3 fois que je demande ça, et ça fait 3 fois que je viens à la communauté, etc. Et il n'y a rien qui bouge, mais je lui dis, mais d'abord dans la foi, croyez que vous avez reçu, déjà, parce qu'on reçoit. C'est pas parce qu'on ne ressent rien tout de suite, ou même sensiblement qu'on ne reçoit rien. Parce que le Seigneur, au départ, c'est vrai, moi, c'est ce qu'il a fait au niveau de ma conversion, au départ, je sentais vraiment dans le sensible. Hein. Pendant un an, j'ai senti dans le sensible. Mais après, ça s'approfondit. Ça s'approfondit et après le Seigneur nous demande d'entrer dans une foi de plus en plus grande. Si le Seigneur nous marche le boulot, à quoi ça sert? Il faut aussi qu'on avance, voilà, pas à pas, et qu'on fasse des actes de foi. Et c'est par cet acte de foi d'ailleurs qu'on commence à connaître le Seigneur. C'est par la foi, donc, voilà, par la vision de foi aussi, et par des actes de foi que le Seigneur nous donne de faire, parce que c'est lui qui nous donne la grâce aussi. Donc ces personnes, donc pour revenir à ça, elles viennent, on prie pour elles, etc. Alors après, bon, on a les offices. Évidemment, il y a les offices, etc., monastiques. Et puis le soir, il y a une grande assemblée de louanges, etc. Donc on continue, et bon, c'est des fois sur 4-5 jours, etc. On a ça une fois par mois, des fois c'est sur la parole, des fois c'est sur ça, des fois c'est sur le chant. Là, j'en ai une, le mois prochain, c'est la mienne. Voilà, session, hein, c'est sur le chant. Voilà. Donc tous les mois, il y a quelque chose qui se passe à la communauté. La communauté se trouve à la Croix-sur-Ourcq, entre Château-Thierry et Soissons. C'est un tout petit village, il y a 60 habitants, voilà, c'est un prieuré, et voilà, et donc ils sont tous là-bas. Voilà.
Et c'est ouvert au public ?
Bien sûr, bien sûr, il faut téléphoner un peu à l'avance, parce que la cuisinière, elle est en surcroît de travail, donc il faut quand même téléphoner à l'avance.
Et ça se passe quand
Alors la prochaine, c'est la mienne, c'est du 19 au 21 février. Après, il faudrait que je vous envoie des papiers. Voilà. Que vous me donnez votre adresse si vous êtes intéressé et je vous passerai.
D'ailleurs, elle va donner un concert. C'est le concert, non?
Non, c'est une session. Une session de chant,
oui. Oui, session de chant le mois prochain. Donc je vais afficher sur le site. Donc vous allez avoir les informations. Les gens intéressés peuvent venir avec moi.
C'est quoi? C'est un week-end, ça?
C'est le vendredi, samedi et dimanche.
Ah, très bien.
Mais, sur 3 jours, oui. Ça commence à 17h, je crois, le vendredi, et le dimanche, ça finit à 10h, je crois. Faut que je regarde.
Aujourd'hui, elle ne va pas faire une prière de guérison, mais elle a déjà fait une prière de guérison plusieurs fois, donc peut-être on va préparer une autre fois, mais pas aujourd'hui. Voilà.
En fait, si je peux me permettre, ces questions de guérison, c'est le Seigneur qui guérit déjà. Il passe par la prière effectivement de certaines personnes qui ont un charisme. J'ai vu effectivement des prières l'année dernière ou l'année d'avant ou à la Pentecôte effectivement. Moi j'étais dans cette assemblée. Il y avait toute une journée en fait de prière charismatique et voilà des gens. Est-ce que ça vient aussi, on le voit, le Seigneur, enfin Jésus, on le voit dans les évangiles, Jésus il demande aux personnes, que veux-tu? Alors que pourtant, dans la lecture, quand on lit une histoire, on a l'impression que c'est évident. un paralytique qui est là, voilà, on a l'impression que c'est évident. Mais Jésus demande quand même.
Parce qu'il nous laisse une liberté.
Anodin. Oui, c'est la question de la liberté. Oui. Et puis, à la limite, qui sommes-nous pour savoir, parce qu'à la limite, ce paralytique, peut-être que c'est autre chose dont il va être guéri. Peut-être que ce n'est pas de sa paralysie. De quoi voulons-nous être guéri? Donc, par rapport...
Et avons-nous envie d'être guéri? Parce qu'il y en a qui s'approchent et qui, oui. Voilà, qui ont des fois la peur.
Avons-nous vraiment envie d'être guéri? Parce que souvent, en fait, on se complaît aussi dans notre confort de maladie. Et pour ça, je pense que c'est important. Enfin, toute cette démarche, ces démarches de guérison, elles ne sont pas anodines. Elles se font effectivement à l'aide à la fois de la prière de personnes, parce qu'en fait, une personne en tout cas que moi j'ai vu être guérie, j'étais à 2 mètres d'elle. Voilà, et puis il y avait Isabelle et puis d'autres frères qui étaient en train de prier sur elle. Mais il y avait aussi toute l'assemblée, toute la communauté qui était là, rassemblée, ce n'était pas particulièrement une communauté, c'était voilà, des gens qui étaient venus pour ce... cette journée qui était organisée lors de la Pentecôte, voilà, qui priait en fait pour la guérison. Mais il y avait la prière plus particulière de ces frères qui étaient là, et puis de cette personne, voilà, selon ce qu'elle voulait, ce dont elle voulait être guérie. Voilà, tous ces aspects sont quand même des éléments importants de la guérison. Et puis après, il y a les différents types.
C'est parti de la même communauté?
Non, mais bon...
On est amis, d'amis colocataires, en fait.
Et cette communauté, elle est mixte, non?
Oui, oui, oui. Il y a les frères d'à côté, les frères de l'autre.
D'accord.
Mais...
Comment ça s'appelle déjà? C'est
une... Communauté de la Sainte Trinité.
D'accord. Et c'est quoi? C'est catholique ou protestant?
Catholique, et on est relié avec les églises d'Orient, en plus.
C'est bénédictin.
C'est vrai qu'on parle pas suffisamment de ces guérisons, parce qu'en tout cas l'Église catholique n'est pas vraiment beaucoup l'accent là-dessus, mais il y a plein de guérisons qui se passent partout à travers le monde. C'est vrai que c'est commun, mais c'est courant. On n'en parle pas parce que...
Mais c'est ça la vie chrétienne. Hein. La vie chrétienne, c'est vivre Jésus et c'est vivre aussi sa guérison, sa propre guérison à travers Christ. Donc, pour moi, on ne devrait pas en avoir peur, on ne devrait pas être étonné, et au contraire, ce qui glorifie Dieu, c'est de dire, je peux glorifier Dieu que si Dieu a fait quelque chose dans ma vie.
C'est ça, exactement, exactement.
Je suis martyr, je suis témoin, parce que, moi je dis, comme on a entendu là, Dieu a fait quelque chose que c'était pas possible que je fasse.
Donc, c'est ça, et on ne peut rien faire d'ailleurs. Même le mot de la truc la plus anodine, tu peux rien faire. Ça, tu vois ce que tu vois, mais... Comment ?
Sauf dire oui.
Sauf dire oui, voilà. Mais en fait, c'est par la volonté. Au départ.
Et si vous n'avez jamais vu de guérison, je vous donnerai des adresses où il y a des prières avec Lyon, à Paris, ailleurs. C'est un phénomène, phénomène, j'appelle phénomène, mais ça devrait pas être un phénomène.
C'est naturel en fait.
Ça devrait être naturel. Et en fait, je me dis, les gens qui ne connaissent pas la guérison ou le surnaturel, je me dis, c'est peut-être ça aussi des fois qui courent en église, avec un grand E. Hein. Église confondue, c'est-à-dire qu'on rentre dans le monde, on est dans le monde, et voilà. Du coup on sort de la vie chrétienne, quoi. Et on se corrompt au monde, et du coup, on a du mal à
vivre. Surtout qu'on n'accepte pas la croix, parce que c'est par la croix qu'on guérit.
Et aujourd'hui, les gens...
Voilà.
Les gens...
Ouais.
Est-ce que je peux lire un passage je viens d'une église où on pratique. L'évêque qui est là, c'est un moine bénédictin.
Ah,
il est breton, donc on a le samedi, le renouveau. Et donc, il pratique une fois par mois, l'huile d'onction de grâce qui est dédiée. Fais cela en mémoire de moi par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant, c'était une fois par année, mais depuis l'année dernière, il a décidé de le faire une fois par mois. Et donc, j'ai été guérie en juin l'année dernière, en faisant l'huile d'onction, l'imposition du nez, j'avais cette journée qui me faisait très très mal pendant quelques mois. Et après, et aussi, il faut avoir la foi pour être guéri. Si on n'a pas la foi, C'est ça justement, c'est pour ça que le Seigneur disait,
la grâce
a guéri, ça ne change pas de la vie. Donc il faut avoir la foi. Donc depuis ça, j'ai plus mal dans cet homme-là, je boitais. J'ai plus mal depuis juin l'année dernière. Donc depuis ça. Et puis j'ai été étonnée d'entendre sur BFM TV qu'il y a des miracles à Lourdes. Il y a eu beaucoup de miracles à Lourdes.
Oui, beaucoup.
Donc il y en a qui parlent quand même, et moi on ne parle pas beaucoup. Mais quand j'entends bien sur BFM TV, je dis, ben dis donc, on le dit quand même, mais pas comme on voulait. Donc voilà, la guérison est là, mais comme dit, il faut avoir la foi. Ouais,
mais comme dit la dame aussi, et elle a raison aussi, des fois le Seigneur touche des personnes qui ne sont pas croyantes.
Oui, oui.
Mais c'est mon cas aussi, parce que j'ai une guérison aussi, donc...
Oui, parce que là,
on ne peut pas ramener...
Parfois, ça fait un peu de ça, parce que les gens disent, c'est pas guéri, parce que t'as pas la foi.
Oui, oui.
Il faut faire attention aussi. Mais le Seigneur, c'est ce qu'il veut, il est toujours... Hein.
Non, mais je parlais, et pendant qu'on était à l'église, on veut être guéri pour quelque chose, je ne disais pas pour l'extérieur.
Mais on est à l'église, il y a des gens qui veulent être guéris, et donc il faut, lorsqu'on prie, il faut savoir comment prier et pour demander au Seigneur. Mais c'est vrai, à l'extérieur, c'est vrai, ça arrive qu'une personne qui n'est pas à l'église et qui est croyant, et qui n'est pas croyant, peut être guérie, quoi, voilà, ça arrive.
Je connais aussi des gens qui ont prié pour d'autres personnes, pour leur guérison, et ils étaient honnêtes, ils disaient, j'y croyais pas, et en fait, elles ont été guéries. Et le Seigneur est obligé de faire avec qui on est, c'est-à-dire avec nos faiblesses, nos failles. Mais malgré tout, il veut guérir les gens, donc il va utiliser. Enfin.
Mais ce qui est important, c'est pas la guérison, c'est qu'à travers cette guérison, je reconnais
que Christ est souverain.
Il est souverain et sauveur. Et souvent, à chaque fois qu'il y a des guérisons, c'est jamais un hasard. C'est souvent même dans l'esprit, toutes les maladies ont un sens, un spirituel profond. Et quand on est délivré de ça, Dieu nous guérit. Il nous guérit et ça veut dire que tu vois, là, dans ta vie spirituelle, il y avait quelque chose de mort, je lui redonne vie. Et tu es guéri. Et c'est ça, donner la gloire à Dieu, c'est ça, reconnaître. C'est, la foi, c'est un don aussi, donc ça se reçoit. Et quand je le reconnais avec mon âme, ma bouche, mon esprit, je le loue. Mais ça veut dire que j'ai reconnu qui a fait ça. J'ai reconnu qui était Dieu, parce qu'il n'y a que lui qui peut le faire. Et ça, c'est ça, rendre la gloire à Dieu. Et le plus important, ce n'est pas tellement la guérison. C'est, des fois, le chemin est encore plus intéressant que la guérison.
Des fois, elle ne vient pas d'un coup.
Et elle ne vient pas d'un coup. Et aussi, parce qu'on ne la supporterait peut-être pas, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est qui le fait, qui me fait grandir, qui me donne cette vie, qui a fait ça pour moi.
Oui, puis après, quel effet ça fait dans ta vie, hein, parce que, par exemple, donc là, on a parlé du cas de Lourdes, alors effectivement, après, c'est vrai qu'on entre un peu dans la bureaucratie de l'Église catholique, mais parce que donc à Lourdes, je crois qu'il y a une soixantaine de miracles officiellement recensés. Alors qu'en fait, il y en a beaucoup plus. Et une des conditions pour qu'on reconnaisse que c'est vraiment un miracle, donc il faut qu'une guérison physique, mais aussi qu'une conversion spirituelle. Voilà. En fait, vous avez des gens qui, à mon avis, ont été objectivement guéris Lourdes, mais comme c'est des gens qui n'ont pas la foi, ils disent ben non, c'est psychologique, c'est une coïncidence. Voilà. Alors que nous, en tant que pour nous, en tant que chrétiens, on va reconnaître l'action de Dieu, ça peut être reconnu comme miracle. Je pense que tout à l'heure, on a parlé de l'épisode de Jésus avec le paralytique, et je pense qu'en fait, ça rejoint aussi tout à fait ce que tu as dit, c'est que donc il y a cette scène où on a ce paralytique qui entre dans la maison. Où Jésus est en train de parler, il dit, non, tout le monde s'attend à ce que Jésus fasse un miracle et guérisse le paralytique. Et ben non, Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Et après, c'est le miracle.
Voilà, c'est ça.
Le plus important,
si on connaît quelqu'un qui est malade et qui est paralytique, je pense qu'on ne peut jamais se permettre de lui dire que sa conversion spirituelle, s'il n'est pas chrétien, est plus importante que sa conversion morale, évidemment.
Donc, de toute façon, faut
dire... N'empêche que dans la foi, c'est un petit peu quand même de cet
endroit. Moi, je crois que le plus important, c'est de demander la grâce de l'humilité. Parce que je crois que quand j'entends tout ce que vous dites, est vrai, quand les uns que les autres, et je me dis comme ça, mais en fait, il n'y a pas de règle. Dieu, il n'est pas dans des boîtes.
Exactement.
Donc, vous voyez, il n'est pas dans une boîte, quoi. Il agit comme il veut, quand il veut, où il veut, et lui, ça s'agèle, il ne se plante jamais, quoi. Donc, Même, même avec nos foies, nos dômes, même de chaque église qu'il pourrait y avoir, eh bien, lui, il va au-delà, quoi. Il s'en fiche complètement des contingences humaines, quoi. Vraiment, voilà. C'est vrai, tout ce que vous dites. En fait, conclusion, écartons les voies, c'est mettons Dieu qui... L'esprit, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Ni il souffle. Comment c'est ? On ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va.
On ne va pas savoir.
On ne va pas savoir.
Parce que l'église, tout, c'est l'âme. C'est le corps, même les médecins peuvent guérir. Mais l'âme, c'est vraiment Dieu qui guérit. Hein. Donc, même si notre corps est guéri par un instant, par un miracle, on peut rattraper notre maladie, on peut être la maladie peut revenir. Mais ce qui est important, c'est le plus essentiel, c'est notre âme soit guérie. C'est pour ça que Jésus demande toujours de quoi tu veux guérir. C'est notre âme, nos péchés soient pardonnés. C'est ça l'essentiel. C'est pas la guérison de corps, de la maladie. Mais au fond, même si notre corps est guéri par le miracle, si nos péchés ne sont pas pardonnés, si notre âme n'est pas guérie, à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Donc l'Église touche plutôt l'âme. C'est ça ce qui est essentiel. C'est ça qui est essentiel.
Moi, je dis qu'il touche en talent.
C'est souvent les deux. Donc, comme Isabelle a dit, Dieu est dans le concret. Donc il les amène dans l'abstrait, en même temps dans le concret, dans le ciel. Donc, voilà, c'est comme ça que Dieu est vraiment magnifique.
Et puis le voisin du dessous,
c'est Marc 16, verset 17, qui dit « Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc c'est pas certains d'entre nous, c'est ceux qui auront cru. C'est tous les gens qui ont la foi. Je crois que c'est important de le dire parce que je crois qu'il y a un mensonge aussi un peu dans l'Église qui dit qu'il y a certaines personnes qui peuvent guérir, il y a certaines personnes qui ont des charismes. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont plus ce charisme-là que d'autres. Mais pour moi, c'est pour tous ceux qui ont cru. Donc les miracles, en mon nom, donc évidemment c'est pas nous, c'est dans le nom du Seigneur, donc c'est le Seigneur qui fait. Ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux. Ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris.
Ouais, pour moi, le Seigneur est le maître.
Exactement. Et si on a le Seigneur en nous, si on a vraiment le baptême du Saint-Esprit, chacun d'entre nous peut imposer les mains.
Exactement, on est prêts, prophètes et rois.
Mais moi j'ai souvent entendu dire, oui non mais il y a des charismes pour ça. Il y a des charismes pour chasser les démons,
C'est vrai que Paul, il a raison aussi, il en parle des charismes, il a pris l'utilisation du corps aussi, en Corinthiens.
Oui, en Corinthiens 13, ouais, 14, il a dit que voilà, le charisme
Attendez, donc maintenant on passe à partage par
un. Oui, on va faire une petite lecture, un temps de silence et de méditation, puis après on échangera sur la parole. Et on va lire le premier texte du jour, ce dimanche. Qui veut lire ?
Moi ?
Pas forcément,
oui, Isabelle. Oui.
Ah, ok. Donc c'est le texte qui est préparé sur le lecture. On a lecture.
L'évangile, c'est pas ou c'est l'évangile de Nîmes ?
Nîmes.
Voilà. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre, tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre,
tout le monde se mit debout. Alors Ezra bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Ezra lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Ezra qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. » Ezra leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur.
De réflexion et après le changement. Il y a des prises en aiguille si vous voulez le relire. C'est en anglais ça. On a plus. Si vous avez une Bible sur téléphone, et pour donner le passage, c'est...
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Regarde, hein. Je suis en église, regardez.
Le texte était un peu coupé aussi.
C'est combien la page?
Oui, non, non. La référence, c'est quoi
Chapitre 8.
C'est Némilite. Voilà, c'est un livre qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de lire.
propose une chose, c'est qu'on resitue le passage de Néonique.
Voilà, alors, donc ça fait partie dans la Bible de ce qu'on appelle les livres historiques, donc qui raconte un petit peu la grande histoire du peuple de Dieu. Et donc c'est l'époque du retour des villes, peut-être vers le 6e siècle, donc le royaume de Juda va falloir s'inquiéter un petit pays, donc ils sont attaqués par les Babyloniens, qui détruisent tout, qui détruisent le temple, etc. Et donc ils emmènent tous les notables du peuple en exil à Babylone. Et donc après le changement de régime, les Babyloniens perdent contre les Perses, qui sont plus intelligents que les Babyloniens, et qui comprennent que c'est mieux de renvoyer les peuples chez eux. Voilà. Donc du coup, tout le peuple hébreu, qui était en exil à Babylone, revient à Jérusalem. Donc là, les Perses leur laissent une certaine autonomie et leur donnent la possibilité de rebâtir le temple. Voilà. Donc c'est un petit peu tout ce qui est raconté dans les livres d'Esdras et de Néhémie. Et donc, après avoir rebâti le temple, donc on a un peu cette grande célébration où le prêtre Esdras, voilà. Donc c'est là où il va lire devant tout le peuple les écrits de la loi de Moïse. Donc on pense sans doute que c'est le Deutéronome. Et puis, d'une certaine manière, le peuple qui a été sauvé par Dieu, va renouer l'alliance qu'il avait conclue à l'époque de Moïse au désert. Donc c'est là aussi la première combat. Donc le peuple est d'accord, donc il dit Amen. Ça n'est pas de dire que c'est vrai.
Il redécouvre.
Alors, est-ce qu'il a oublié, ça on ne sait pas trop, mais... Voilà, parce que par exemple, dans la liturgie catholique, c'est une trace qu'on a gardée, c'est-à-dire que quand il y a une église qui était profanée, vandalisée, etc., il y a tout un rituel, je crois que ça s'appelle le rituel de purification de l'église, voilà, où en fait, symboliquement, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on dit que cette église était le lieu de Dieu, le lieu de la communauté, le lieu de la prière, des vandales, etc., des gens ont abîmé ce lieu, donc on le répare, on le nettoie, voilà, et d'une certaine manière, c'est aussi le moment là, où toute l'assemblée présente redit oui à l'alliance que Dieu lui propose. Donc là, c'est ça. Alors après, est-ce que les gens ont oublié, je sais pas, c'est un peu difficile. Il y a presque plus de monde.
Voilà. On va faire ça, on va faire des tentes, revenir aux attaques, etc.
Voilà, puis le monde du prochain, les 10 commandements, c'est un peu...
Alors, est-ce que vous connaissez les 10 commandements, parce que c'est le Deutéronome, les règles, voilà. Quand tu le rappelles, parce que la question que tu posais quand j'ai lu le texte, je me suis dit, mais pourquoi ils sont dans l'amertume et la tristesse, voilà, alors qu'ils sont libérés, ils devraient revenir, ils devraient être joyeux, et qu'à la lecture j'imagine des Deutéronome, ils sont dans le désarroi et la tristesse. Parce qu'ils comprennent qu'ils ont péché.
Mais pour moi, c'est une tristesse que moi j'ai compris comme ça. Moi, c'est une tristesse que Dieu, comme lui, il y a une tristesse pour le monde. Et du coup, c'est ça qui a mis un changement. Je ne sais pas si... Oui, mais il y a une ramenée quand même. Ne pleurez pas, ne vous affligez pas. Ils sont quand même affligés. Deux jours spéciaux, ils disent, il ne faut pas être dans la tristesse et tout ça, il faut manger de la viande, c'est ça que j'ai retenu. Ce jour-là, il faut manger de la viande, il faut... Je ne sais pas si ça m'est venu à la tête, l'histoire du dimanche, où les gens avant faisaient l'enterrement le dimanche, et depuis quelque temps, ils ont arrêté de faire l'enterrement le dimanche, parce qu'ils veulent que ce dimanche-là soit joyeux et tout, pas de la tristesse.
Ça ne vous dit pas plus que chose que ça, Néhémie?
Voilà, on sent que quand même le prêtre est dans l'espérance, il dit qu'il a un rôle du Seigneur
et
votre force, oui, c'est ça. Oui,
voilà,
ça dépend une autre
strain. Moi, je préfère effectivement, les traductions anglaises, souvent c'est dans un livre anglais,
oui.
C'est pour ça que j'ai demandé à relire la traduction française, parce que c'est... bien traduit. C'est des mots qui ne sont pas nécessairement bien compréhensibles pour nous. Ouais.
Et alors, donc, pour relancer la question, comment est-ce que vous comprenez cette expression « La joie du Seigneur est votre rempart » ? C'est ça, finalement, ce que je dis.
Moi, je vais juste avant ça, je vais juste un petit peu aller avant pour bon, ce que moi je vois dans ce texte. Ce que je vois dans ce texte, c'est je ne connaissais pas son témoignage, mais c'est une rencontre avec le Seigneur. Et Néhémie, pour moi, c'est les gens qui rencontrent, qui retrouvent le Seigneur. Et c'est un peu aussi l'histoire du fils prodigue. Et il y a cette similitude de je redécouvre Dieu et ce n'est pas la condamnation qui nous attend parce que j'ai péché, etc. Mais c'est la grâce et la joie. Donc c'est un jour de joie et un jour de fête. Et c'est ça qu'ils enseignent, c'est qu'ils disent votre Dieu est un Dieu de joie et de fête. Et vous, comment dire, vous voulez faire la tristesse ou
pas faire
le deuil, voilà, parce que c'était peut-être aussi c'était une époque difficile, voilà, ou en écrasant, parce qu'ils savent qu'ils ont été chassés par les prophéties, ils ont été chassés à Babylone, Dieu les a dispersés, les a jugés, et je pense qu'ils ont conscience de ça quand ils reviennent, et je pense que c'est extraordinaire, c'est qu'au lieu du jugement, comme dans le fils prodigue, il y a la joie et la fête. Mmh. Et la rencontre avec Dieu, quand on rencontre Dieu, c'est une délivrance et une joie immense et incroyable. Et c'est ça, pour moi, le sens de Néhémie, c'est la joie de rencontrer Dieu, même si je suis triste et tout est perdu, je ne crois pas, peut-être, mais en fait, Dieu est là. Et à un moment donné, il va se révéler à moi. Et ça c'est extraordinaire.
En fait, la joie du Seigneur, c'est aussi la joie du Seigneur qui délivre son peuple.
Exactement.
Justement, c'est se confier dans cet amour, parce que la joie et l'amour, c'est la même chose, en fait. Mais bon, c'est la joie, la vie de la joie, donc pour rester sur le mot joie. Et c'est parce que le Seigneur, il met sa joie, il le dit, je prends plaisir. Il le dit même dans plusieurs parties de la Bible, je prends plaisir. À pardonner, je prends plaisir à délivrer, je prends plaisir à sauver. C'est se confier dans ce plaisir, cette joie quoi, qu'il a de nous, ben, de nous aimer, de nous sauver, quoi, de voilà, cette miséricorde.
C'est un passage de la mort à la vie.
C'est ça.
On est mort au péché et on ressuscite.
On passe
de la tristesse à l'allégresse.
C'est ça.
Et sa façon de punir, c'est le pardon. Ça, c'est très étonnant.
Pourquoi c'est rempart? C'est parce que rempart, c'est pour se protéger, c'est contre quelque chose. Et je pense que la joie de Dieu, la joie qui vient de Dieu, c'est une joie, c'est une autre joie, c'est une joie un peu d'une nature un peu surnaturelle. C'est-à-dire que c'est une joie tellement puissante, c'est pas une joie qui peut être atténuée, c'est une joie qui dure.
C'est une joie qui
n'est
pas
de genre
de sentiment.
C'est pas un sentiment,
non,
c'est pas un sentiment.
Moi je dirais aussi la joie c'est la vie. Et la joie. C'est la vie de Dieu qui coule en abondance.
Ouais, j'ai un autre verset là dans la tête par rapport à ça. C'est quand les Juifs viennent voir Jésus, ils disent mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas?
Pourquoi ils ne jeûnent pas.
Il dit, mais tant que l'époux est présent, ils n'ont pas besoin de jeûner.
Voilà.
Mais par contre, quand il leur sera enlevé, là, ils jeûneront. Et je me dis que le monde dans lequel on est, c'est sans arrêt ça. Quand on rencontre le Seigneur, il remplit notre vie, donc on ne peut pas être... on n'est pas dans le jeûne, on est dans une abondance de joie, de foi, de nourriture spirituelle.
De vie.
De vie.
Une abondance de vie, qui est la vie plénière.
Ce qui me fait vivre, c'est vraiment lui-même, en fait, hein, enfin, de cette Eucharistie.
Oui.
Et comment dire, la, la vraie tristesse, c'est de ne pas savoir, en fait, que Dieu est réel et vivant, en fait, ou qu'il, voilà, qu'il peut me guérir pendant ma vie, etc. Vraiment, ce texte-là, ça me fait penser à ça, dire, tant que l'époux est là, je n'ai pas besoin de jeûner. Ça veut dire que je mange à la nourriture spirituelle. Je ne jeûne pas. Et quand il sera enlevé, ça veut dire que si Dieu n'est pas là, je suis sec, je n'ai pas de vie, je suis mort.
Tu es toujours là, même si Dieu ne paraît pas être là, mais Dieu est toujours là.
Oui, c'est pour nous. C'est pour nous. Évidemment. Mais... Ok. Qu'est-ce que ça?
Bon.
Je voudrais juste ajouter, c'est que Dieu attend également qu'on fasse sa joie. Je trouve plus le texte, il y avait un texte avant. Comme déjà l'époux fait la joie de son mari, que nous puissions faire la joie de Dieu.
Je crois. Pour moi, j'ai déjà entendu, il est dans le Cantique des Cantiques, à mon sens. Mais,
je crois que c'est dans le livre d'Isaïe.
On l'a eu dernièrement, c'est sûr.
Si vous allez quand vous allez vous coucher, si vous pouvez dormir avec la paix, et le matin quand vous pouvez vous lever avec la joie, voilà, c'est ça la foi, et c'est ça le Dieu qui nous fait. Donc voilà, c'est ça la foi, le merveille de la foi.
Et puis il y a un psaume qui dit je viens devant Dieu avec la joie et
oui, la foi, c'est pour vivre la joie et la paix et l'amour.
Et c'est vrai que des fois, quand on est dans une église, j'ai pas l'impression que les gens viennent avec des cris de joie.
Alors, avant de...
C'est l'intérieur.
C'est l'intérieur, mais l'extérieur,
tout se
projette à l'extérieur.
Il y a une semaine, j'ai pris un sourire dans l'esprit, et c'était spirituel, c'était ça. Et on est venu me voir, on a fait chut. Et j'ai trouvé ça tellement triste, je me dis, mais vous n'avez pas discerné que ça venait du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, c'est ce qu'il... Et je savais que
ce n'était
pas ma joie.
Ça nous dépasse. On ne peut pas bloquer ça.
Il y a même des fois parce que l'attitude, je ne comprends pas.
La limite est mienne.
Mais j'ai trouvé ça triste parce que je me suis dit, non pas discerné et quelque part, il...
Alors, j'ai quelques annonces à faire, donc maintenant. La prochaine réunion sera 21 février. Donc le témoignage prévu, c'est un musulman converti à christianisme. Donc c'est lui qui va venir témoigner. Et nous, on est en train d'organiser en fait le prochain pèlerinage. Comme Jean-Michel a dit, nous on est dans le chemin, c'est le chemin, le pèlerinage. Donc on va faire un pèlerinage en Italie, aller voir le temple de Padre Pio, San Giovanni Rotondo. En même temps, on va d'abord faire un petit pèlerinage à Rome, et après on va aller à San Giovanni Rotondo. Et après, on peut aussi prolonger jusqu'à Assise, parce que Saint-François est très lié à Padre Pio. Donc, Trois-Pôles, on va faire un pèlerinage. Là, on a prévu au mois de mai, entre le 20 et le 28. Donc, voilà, c'est prévu, et je vous annonce. Et là, donc, le mois prochain, 21 février, et si vous voulez vous inscrire, c'est jusqu'à cette date-là que vous pouvez vous inscrire, parce qu'il faut préparer longtemps avant, le billet d'avion et sur place. On va peut-être se déplacer par location de voiture, donc c'est là-dessus qu'on va jouer. Donc on va vraiment organiser détail par détail, mais vraiment on serait libre, on serait guidé par l'Esprit Saint. Donc on ne va pas faire trop de programmes, mais vraiment on sera libre, mais vraiment par l'Esprit Saint, avec l'Esprit Saint. Donc, si vous voulez venir, voilà, vous venez d'inscrire jusqu'au 21 février. Et aussi, vous avez maintenant le site www.verger.org. Donc, il y a le forum, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez poser la question. Donc, utiliser cet espace sur Internet pour se communiquer. Je vais afficher régulièrement les événements culturels. Hier, on était allé voir une pièce théâtre, Dialogue des Carmélites. C'était superbe. Vraiment, je vous recommande d'aller voir cette pièce. Vraiment, c'était très profond. C'était une pièce de Vernanos. Et vraiment, le dialogue était assez parlant, profond. Donc, voilà. Regardez bien ce qui se passe dans les événements sur le site. Voilà.
Juste pour éclairer, on a ébauché un petit parcours pour aller en Italie voir Sergio Bassis et Pedricchio. On prévoit ça sur une semaine et un jour qui se passeront, je vous rappelle la date,
voilà.
Et le budget c'est environ 900 euros avec le billet, etc. Je pense qu'on demandera aux gens, si vous décidez de venir, de prendre vous-même le billet. On ne va pas faire d'organisation globale du billet. Par contre, on demandera des points de rendez-vous. Le point de rendez-vous, ce sera Rome. Et on organisera soit des hébergements, soit des hôtels. Et après, on passera sûrement 2-3 jours à Rome, un jour à Assise, ou deux, et ensuite à San Giovanni Rotondo. Pendant 2-3 jours aussi, après, pour finir au Saint-Michel italien qui s'appelle Monte San Angelo, oui. Et ensuite retour à Paris. Donc voilà.
Pourquoi 3 jours à San Giovanni Rotondo? Donc tout à côté, il y a Monte San Angelo, où il y a la grotte où Michel-Ange, l'archange Michel a été à Paris plusieurs fois. On visite préféré de Pateppio. Donc voilà, on va vraiment, c'est une grande source de spiritualité. Et à côté, il y a un monastère qui s'appelle San Matteo in Lamis. Là, il garde tous les dents de Saint Matthieu, l'apôtre. Donc là aussi, on va visiter, on va organiser ça aussi.
Mais voilà. En tout cas, on va voir déjà en fonction du nombre de gens qui veulent venir répondre. Et donc on donnera les informations. Mais alors le mieux.
Au fur et à mesure, on va afficher sur le site s'il y a le programme ou les informations. De toute façon, contactez-nous, soit Jean-Michel, soit moi, ou soit Jean-Baptiste, pour s'inscrire.
Voilà. Pour l'avion, il faut donner quel horaire on va prendre, si on prend soi-même et on dira lequel avion.
On nous donnera un rendez-vous. C'est-à-dire on dira voilà, on sera le tel soir à Rome. Et après les gens, on donnera une amplitude jusqu'au lendemain pour dire que vous pouvez arriver sur cette journée-là. Voilà, on se rejoint là et après on aura des voitures ou des camionnettes, je suis en train de voir ça, pour aller à Assise d'abord et puis ensuite à...
Une fois qu'on fixe le programme, peut-être l'itinéraire, on va afficher sur le site, donc vous allez...
On l'a ébauché, mais comme dans tous les voyages, tout n'est pas... fixé comme du béton, la trame c'est ça, la trame c'est 8 jours avec Rome 2 ou 3 jours, Assise un jour je pense, ensuite Saint-Germain Rotondo, ensuite Monte San Angelo, toujours en première classe. À chaque fois il vient voir, quand j'avais fait le voyage avec lui, on n'était pas très fortuné, et Seigneur m'a dit tu vas voir, je vais te mettre en première classe. Pourquoi? Et c'était vrai. Je suis arrivé dans l'avion, on est arrivé, on était les premiers, ils ont dit on vous met première
classe. On n'est pas quoi. Vous voyez là, parce que l'Esprit Saint, vous serez toujours béni en première
classe. Il y a plein de gens qui sont complètement blagues. Et j'ai dit mon Dieu, c'est incroyable.
Vous allez vivre plein de choses. Nous, on a déjà fait le même itinéraire avec Jean-Michel. Et tous les jours, il s'est passé des choses extraordinaires. Tous les jours, vraiment, c'était un voyage extraordinaire. Donc, vous allez vivre ça avec nous. Voilà, je vous en prie tous. On va passer à la messe maintenant. On va faire une.
On n'aura pas de guide.
On n'a pas de guide, mais c'est nous qui.
Bon, mais on connaît un petit peu, on l'a fait.